Voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ce matin, on va parler avec vous pour commencer des jardins ouvriers, des jardins partagés. Et ça passe, notamment dites-vous, par un homme méconnu.
Eh oui, l'abbé Lemire. L'abbé Lemire qui est élu député en 1893. Alors, c'était pas le seul prêtre à avoir été élu député. D'autres suivront son exemple, comme l'abbé Pierre en 1945. Et les deux hommes, je pense, ont en commun l'amour de leur prochain. Dans les années 1890, Jules-Auguste Lemire se bat pour améliorer la situation démente d'ailleurs, des ouvriers dans le nord de la France, mais rien n'y fait, il prêche dans le désert. Il décide donc de devenir parlementaire et à peine entre-t-il au Parlement sur le banc des socialistes chrétiens qu'il déclare, je le cite, « Je souhaite au nom des droits de la personne humaine et de la famille que les jeunes ouvriers et ouvrières, jusqu'à l'âge de 18 ans, ne puissent être employés à un travail effectif de plus de 60 heures par semaine et de plus de 11 heures par jour. » C'est terrible. Quand
60 on heures par semaine, on était loin des 35.
Pour des gamins de 14-15 ans, ouais. c'est effrayant.
Sauf que le 9 décembre 1893, l'abbé Lemire est victime d'un attentat.
Et oui, il est blessé par une bombe lancée en pleine séance parlementaire par Auguste Vaillant, un anarchiste. Alors, ses blessures, fort heureusement, sont bénignes, mais étant la seule victime, il n'était pas visé au passage, il devient une célébrité. Et cet homme qui est incroyablement juste et bon va devenir véritablement une icône. Et il va même militer, imaginez, on est à la fin du 19e siècle, il va déjà militer contre la peine de mort, allant jusqu'à demander, mais en vain, la grâce de l'anarchiste Vaillant. C'est quand même très courageux.
Et c'est un précurseur donc. Et malgré sa popularité, la popularité de cet abbé Lemire, eh bien sa loi sur le bien de la famille n'a pas été adoptée.
Eh non, il aurait aimé, je le cite encore, enraciner les Français à la terre si bienfaisante à la famille humaine, arracher les ouvriers au prolétariat qui les guette et les pourrit. Alors, l'abbé Lemire est bien sûr convaincu que le potager détournera les hommes des abus de l'alcool, mais là encore, il n'est pas entendu. Il fonde alors, seul et sans aucun moyen, en 1896, la Ligue française du coin de terre et du foyer. L'abbé Lemire vient d'inventer le jardin ouvrier.
Oui, sauf que son action ne plaît pas à la hiérarchie de l'Église.
Oui. Elles sont jugées subversives par son évêque qui lui a interdit de célébrer les offices. Mais là encore, et fort heureusement, le pape en personne intervient en sa faveur et il peut ainsi poursuivre son combat jusqu'à sa mort en 1928. Grâce à l'abbé Lemire, il y a eu jusqu'à 700 000 jardins mis à la disposition des plus défavorisés en France.
Oui, et puis le concept a changé de dénomination. Les jardins ouvriers sont devenus familiaux en 1952.
Et oui, ouvriers avaient une petite connotation un petit peu désagréable. Imaginez qu'à la même époque, en Angleterre, on les appelait les jardins des pauvres. C'est encore pire, je crois. Donc les jardins ouvriers, vous venez de le dire très justement, deviennent familiaux en 1952. Aujourd'hui, on parle davantage de jardins partagés. Ils sont généralement situés en périphérie des villes, le prix du mètre carré oblige, mais on en voit aussi à Paris, de plus en plus sur le toit des grands immeubles, et il n'y a pas plus bel endroit pour se réunir qu'autour d'un potager. On produit, on partage la récolte. J'aime beaucoup cette notion, et c'est un homme d'église qui, il y a 200 ans, y pensa en premier.
Partageons les jardins. Vous avez bien raison, Alain Baraton. Les questions des auditeurs à présent et vos réponses. Amélie, par exemple. Amélie vous dit, tous les ans, je plante des potirons sur mon tas de compost, mais les potirons pourrissent à chaque fois. Que faire?
Ah, les potirons, c'est assez simple et c'est assez compliqué. C'est assez simple parce que la plante se plaît pratiquement partout. Et il est vrai que quand vous avez un potager, vous avez souvent un tas au fond du potager qui ne sert à pas grand-chose. Vous plantez un potiron dessus, il va entièrement recouvrir votre tas de compost. C'est drôle, c'est esthétique. Si vous vous êtes amusé à graver sur le fruit un dessin, il va, avec le grossissement du fruit, prendre une dimension assez amusante. Et puis d'un seul coup, on voit ce potiron qui commence à se liquéfier, à pourrir. L'excès d'humidité, le potiron, une fois qu'il est mûr, déteste l'excès d'humidité. Il suffit tout simplement de le poser soit sur un carton, soit sur une planche en bois pour éviter ce désagrément. Ce n'est pas plus compliqué.
On peut récupérer un potiron qui a pris l'humidité.
Ah, oui, enfin, il faut éviter qu'il le prenne parce que s'il est devenu, mousse, il est devenu pourri, il n'est pas bon à être consommé. Mais il est vrai que c'est joli un potiron et c'est une plante vraiment très facile à cultiver.
Valérie a des problèmes avec ses rosiers. Elle dit, mes rosiers ont produit de magnifiques tiges bien robustes, mais pas de fleurs.
Eh oui, il y a dans le domaine jardinier des jolis termes. Vous avez parfois des branches qui se développent en dessous du point de greffe. Un rosier est greffé et il est greffé pour obtenir des couleurs, des pieds résistants, par exemple à un sol calcaire. Mais de temps en temps, la nature est quelque peu taquine et elle crée quelques désagréments et pousse en dessous du point de greffe ce que l'on appelle des gourmands. En un mot, le végétal retrouve son apparence d'origine. Et si cette tige verte puissante s'appelle gourmand, c'est qu'elle épuise le végétal, ou du moins elle prend toute l'énergie de la plante. Donc vous n'aurez jamais de rosier vigoureux si vous laissez couper, si vous laissez grimper les gourmands. On doit les couper à la base, sitôt ils apparaissent, mais on les remarque très vite. Ils poussent droit, ils poussent vite, ils sont d'un vert éclatant, ils ne donnent pas de fleurs, ou alors exceptionnellement, ce sont les gourmands, ils doivent être coupés.
Louise, elle a un gros platane, dit-elle, et ce qui lui pose problème, c'est pas le platane, ce sont les feuilles. Comment me débarrasser des feuilles du platane qui mettent un temps fou à se décomposer?
Mais c'est vrai, c'est pour ça que le jardinier n'utilise pas les feuilles de platane, d'autant plus que quand elles se décomposent, elles donnent une terre acide. Mais pour augmenter la rapidité de décomposition, une technique simple est vraiment simple. Vous avez une tondeuse, et bien vous ramassez avec la tondeuse, et la lame va tout simplement broyer les feuilles, et vous pourrez ainsi économiser de la place dans le jardin pour stocker sur le compost, parce que des feuilles de platane qui ne sont pas broyées, elles s'envolent. Et si vous avez ramassé pendant une journée complète vos feuilles pour les voir revenir le lendemain après un premier coup de vent, c'est peine perdue. Donc vous les broyez avec la tondeuse, résultat garanti, c'est facile à faire et en même temps vous tondez votre pelouse.
Alors un autre problème de feuilles, celui de Thomas. Lui a des problèmes de feuilles avec son marronnier. Elle sèche dès le mois de juillet. Comment lutter contre cette sécheresse?
On ne peut pas. C'est une maladie qu'on appelle Guignardia aesculi, d'Aesculum, donc marronnier. C'est un champignon, c'est une maladie cryptogamique favorisée par les printemps pluvieux et chauds, et surtout par les différences de température entre le jour et la nuit. Et tous les marronniers que je connais dans la région parisienne sont attaqués par le Guignardia aesculi. Il n'y a rien à faire, la plante en souffre moyennement, mais à trop en souffrir, elle finit par s'affaiblir et petit à petit, les marronniers disparaissent.
Un conseil lecture pour terminer.
Très beau conseil de lecture, un chêne de Belinda Cannon. C'est une femme tout simplement qui aime les arbres et qui, des fenêtres de son bureau, eh bien, les photographie. Elle accompagne ces photographies de textes. C'est publié aux éditions Le... Dites-le donc, vous avez vos lunettes.
Alors, sécher, on vous le dira sur le site de France Inter. C'est écrit en petit. Parce que c'est écrit trop petit pour moi également.
C'est vraiment écrit.
On va prendre des lunettes plus fortes.
Mais c'est vraiment, ça sera sur le site. C'est vraiment un très joli livre, fort joliment écrit.
Le chêne, donc, conseil lecture d'Alain Baraton. Merci et bon week-end, on va prendre nos lunettes.